Les Reliures, l'émission littéraire de Radio Galaxie. Bonsoir et bienvenue dans Reliure. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Roger Béteille, un géographe, historien, auteur ouerga. Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs.
Roger Béteille, puisez-vous dans vos origines rurales pour vos écritures?
Oui, bien sûr. Je crois que une jeunesse en milieu rural laisse des traces, laisse des façons de penser, laisse une sensibilité. Et je pense que j'aurais tort de ne pas me référer à ce que je connais et à ce que je sens parfaitement dans ces milieux ruraux. Mais ça n'empêche pas que je peux aussi parler de milieux tout à fait différents et urbains, puisqu'un certain nombre de mes romans ont des sites tout à fait urbains.
Oui. Votre profession aussi vous sert-elle justement dans l'écriture?
Oui, ma profession me sert dans l'écriture, ou en tout cas elle me fournit un arrière-plan, puisque ma profession et mes études ont été celles d'un géographe historien. Mm-hmm. Et donc, dans mes romans, dans mon écriture, j'essaie à la fois de donner quelque chose d'exact sur le plan historique, qu'il n'y ait pas de contresens. Et d'autre part, j'essaie aussi de traduire sur un plan littéraire des paysages que le géographe, lui, voit de manière plus scientifique.
Oui. Est-ce que vous parlez de vos œuvres dans des écoles ou est-ce que vous faites des conférences? Et si oui, quelle est la réaction du public qui vous écoute?
Oui, bien sûr, il m'arrive de présenter mes ouvrages dans des écoles, dans des lycées ou devant des publics plus variés, par exemple des publics de troisième âge en maison de retraite, ou bien des publics plus variés avec par exemple des animations locales dans le cadre des activités culturelles d'Hambourg. Ce public en général aime bien retrouver souvent ce qu'il a connu ou apprendre des choses nouvelles sur les milieux qui l'intéressent, le cadre de vie qui l'intéresse. Donc je crois qu'il y a, si vous voulez, dans cet aspect régional, quelque chose qui motive les gens. Mais dans régional, il n'y a pas que la description, il y a aussi bien sûr le roman lui-même, l'intrigue.
Oui. Vous avez reçu beaucoup de prix. Est-ce que ces distinctions vous encouragent justement dans cette voie d'écrivain?
Écoutez, pour tout vous dire, mon premier ouvrage qui s'appelait L'Orange aux girofles a eu le prix Mémoire Doc à Toulouse en 2001, je crois, si je me souviens bien. Le prix Mémoire Doc est un prix qui est décerné à un ouvrage décrivant particulièrement les mentalités Doc, des mentalités du Midi. Et il est évident que cela a été un grand encouragement, puisque passant de l'écriture scientifique, des développements techniques à quelque chose de beaucoup plus littéraire, le prix m'a confirmé dans mon goût d'écrire, dans mon goût de continuer vers le grand public.
Mmh. Aujourd'hui, nous allons parler de votre livre La vengeance de Laura. Il est paru en 2013 aux éditions du Rouergue. Le sujet est une intrigue. Est-ce que vous aimez les policiers?
Oui, bien sûr, j'aime beaucoup les policiers et en particulier, je suis encore un grand lecteur de Georges Simenon parce que je trouve qu'il y a là, dans Simenon, à la fois de la psychologie, des intrigues souvent magnifiques et aussi un cadre de cette France de l'époque de Simenon, des années 30-40, qui a duré encore un moment et de toute façon, aujourd'hui, lorsqu'on bâtit une intrigue, même si on n'est plus dans les années 30-40, je trouve important de traduire un cadre, de traduire une ambiance, une atmosphère pour le lecteur.
Mmh. Et comment vient l'idée d'un sujet, justement, d'un sujet qui n'est pas encore sur le papier?
Écoutez, pour moi, un sujet, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, qui tombe un peu du ciel, si je puis dire, un peu qui procède sans doute beaucoup du hasard. Je n'écris jamais mes livres sur commande, sur un sujet qu'on m'indiquerait, comme cela se passe pour certains auteurs. Je termine toujours mes manuscrits, mes textes, avant de les soumettre à l'éditeur. Donc pour moi, le sujet, c'est ce qu'on peut appeler une inspiration, la rencontre de plusieurs choses, de circonstances. Par exemple, pour La vengeance de Laura, L'inspiration, si l'on peut dire, m'est venue d'une idée qui m'était venue en regardant des photographies anciennes, et ces photographies ont déclenché en moi l'envie de bâtir une intrigue autour du souvenir de photographies.
Mmh. Comment est-ce que vous faites pour reconstituer ces lieux ? Est-ce que d'abord ils existent en vrai, comme l'auberge, la Grande Villa, l'Hôtel de France, la Girandole ?
Oui, il y a une part de vérité, mais oui. Par exemple, l'Hôtel de France existe, si vous voulez, à travers 3 ou 4 établissements que je connais dans des villes du Midi, et donc c'est une composition.
D'accord. En tout cas, c'est très bien fait. On s'y croirait.
Oui, mais je crois que c'est effectivement la tâche de l'auteur de rendre une atmosphère.
Oui.
Comment dirais-je, l'auteur aussi, lorsqu'il veut être dans le vrai, pour une période à laquelle il n'appartient pas complètement, par exemple les années 30, pour ce qui me concerne, l'auteur peut avoir recours aux journaux d'époque, les journaux rendant évidemment la vie concrète, comme aujourd'hui nos journaux papier ou nos journaux télévisés, radio, rendent cette atmosphère.
Mmh. Albert Camus a dit « La justice est à la fois une idée et une chaleur de l'âme ». Est-ce que chez vous, dans votre livre, c'est un plat qui se mange froid ?
Oui, là, je crois qu'il a beaucoup refroidi, puisque les raisons de cette injustice, n'est-ce pas, ont été dans les années 1940, 1942, et donc nous sommes dans le roman dans les années 70, donc effectivement, il se mange froid, mais je crois que dans cette citation, il y a tout le personnage de Laura. La justice, eh bien, elle a une valeur absolu. Il
oui.
faut que la justice passe, qu'elle soit celle des hommes ou celle de Dieu, comme on disait autrefois.
Oui.
Mais je crois aussi que la justice, c'est une âme. Et effectivement, Laura, cette femme assez exceptionnelle, à mon sens, va se réaliser dans l'accomplissement de cette vengeance qui sera la justice qui n'était pas passée à travers les lois des hommes ou même la main de Dieu.
Comment avez-vous choisi justement vos personnages ?
Eh bien, Laura, je crois, s'est imposée dès le départ, mais après, Laura, c'était l'héroïne, mais après, des personnages sont apparus que je n'avais pas, a priori, vraiment planifié, programmé, imaginé, en fonction de l'évolution psychologique, en fonction de l'évolution de cette petite ville du sud du Massif central, ou on pourrait dire d'ailleurs de toute la France,
oui.
dans laquelle la société a ses défauts, a ses qualités, et où donc les personnages s'imposent petit à petit, le jeu des personnages
oui.
En fait apparaître d'autres.
Mmh. La couverture, c'est vous qui l'avez choisie ?
La couverture, elle est choisie aux éditions du Rouergue, comme dans beaucoup d'éditions
oui.
d'ailleurs, par un accord entre donc l'éditeur, puisque l'éditeur, lui, vend le livre, et par conséquent, pour lui, la couverture est un élément commercial aussi. Et d'autre part, l'auteur pour qui la couverture résume un petit peu le texte. Alors, en la circonstance, on m'avait proposé quelques couvertures un peu différentes, mais j'ai trouvé que cette couverture où le personnage est vu de dos, où la jeune femme est vue de dos, une jeune femme qu'on devine charmante à travers sa chevelure, cette couverture, donc, finalement, incite à entrer dans le livre lui-même et à regarder cette jeune femme en face, et à savoir ce qu'elle a un peu dans l'esprit et dans l'âme.
Oui, c'est tout à fait vrai. Vous donnez justement une grande place aux femmes dans vos romans en général. Est-ce que ça, c'est important pour vous ?
Ah oui, écoutez, c'est une remarque que vous n'êtes pas la seule à m'avoir fait. Je ne sais pas pourquoi, mais aussi parce que peut-être parce que les femmes sont quand même au pivot de la société, au pivot des sentiments et au pivot de la famille. J'ai un certain nombre de personnages féminins. Il faut dire aussi que dans ces années d'avant-guerre, dans ces années 70 encore, où les structures familiales restaient assez traditionnelles, où les rapports personnels obéissaient à un modèle de couple où ils étaient beaucoup moins précaires qu'aujourd'hui, et il est évident que les femmes avaient, et notamment dans les intrigues, un rôle absolument essentiel, me semble-t-il.
Oui. On va essayer de ne pas trop dévoiler cette intrigue, justement, de la vengeance de Laura. Pourquoi est-ce qu'elle est étrangère, justement, dans cette ville ?
Ben, elle est étrangère parce que c'est une ville où, effectivement, on ne s'intègre pas très facilement. Il y a donc des groupes, il y a des clans, et toute personne qui n'en fait pas partie, a priori, est étrangère. Mm-hmm. D'autre part, cette jeune femme vient du Nord. Elle a un physique qui n'est pas très commun parmi la gent féminine dans la ville. Elle est d'une beauté qui frappe un certain nombre d'imaginations. Et elle a un comportement un peu étrange. Elle disparaît quelquefois pendant 8 jours, pendant 3 jours. On se demande ce que recouvre son commerce d'antiquité.
Oui. Justement, est-ce qu'elle est vraiment antiquaire ou est-ce que c'est juste là pour sa cause ?
Ah, elle est quand même antiquaire. Elle est quand même antiquaire. J'en parle d'ailleurs assez longuement. Je parle de ses chines, comme on dit. Je parle de ses recherches. Et dans une époque où la campagne recélait quand même des trésors de mobilier rural, de mobilier familial en bois fruitier, par exemple. Et il ne faut pas oublier non plus que ses origines sont quand même celles d'un milieu d'antiquaires du Nord de grande qualité. Oui. Donc elle est antiquaire, mais ça sera uniquement pour elle une couverture, si vous voulez, pour s'intégrer parmi les commerçants de cette ville et un moyen de pénétrer tous les secteurs de la société et tous les secteurs géographiques, puisqu'elle travaille à la fois à la campagne et en ville, en ne sachant pas au départ ce qu'elle va trouver.
Oui, tout à fait. Alors, on va essayer de vraiment rester dans le plus grand flou. Est-ce que les hommes la voudraient à leurs bras, sans dire la suite, puisqu'on va y revenir ?
Ah oui, je crois que les hommes seraient très malvenus de ne pas la souhaiter à leurs bras, parce que je pense que le physique que je lui prête est un physique extrêmement attirant. Et d'autre part, c'est une fille qui n'a pas seulement le physique, mais qui apparemment, n'est-ce pas, a une grande personnalité. Donc une femme qui a à la fois, qui est à la fois favorisée par la nature sur le plan physique et qui paraît avoir une intelligence assez remarquable, peut-être un petit air de défi, ne peut être que mystérieuse et attirante pour les hommes. En tout cas, moi personnellement, je sens les choses un peu comme ça.
Oui. Oui. Est-ce que c'est facile pour un homme, justement, d'écrire une femme ?
Écoutez, je ne sais pas si c'est facile, en tout cas c'est passionnant. j'ai donc plusieurs personnages de femmes. J'ai des personnages masculins, j'ai des personnages âgés, j'ai des personnages plus jeunes, comme par exemple dans La Pomme Bleue, le garçon qui a 11 ans quand commence le livre. Moi, je crois que c'est là le métier d'écrivain, c'est là la sensibilité de l'écrivain, c'est de se mettre dans la situation d'un personnage et d'essayer de suivre ce personnage, de le bâtir aussi logiquement que possible, avec aussi bien sûr les sentiments, mais je vous avoue que moi je n'ai pas tellement de difficultés à me couler dans cette espèce de dédoublement de la personnalité. Mm-hmm. Après, est-ce que je rends le personnage de manière parfaite ? Ça, c'est au lecteur de le voir et de le dire.
Oui. Donc, on va faire une toute petite pause musicale avant de continuer les pages de votre livre.
Volontiers.
Vous êtes toujours sur Radio Galaxie, nous sommes en compagnie de Roger Béteille qui dévoile La Vengeance de Laura, son dernier roman, paru aux éditions du Rouergue en 2013. Roger, qu'est-ce qui anime Jacques Baraté, ce policier que vous avez mis dans ce roman ?
Je pense que ce policier qui est dans le roman est un peu le pendant masculin de Laura. C'est quelqu'un qui est arrivé dans la ville dans une situation personnelle un peu difficile. Il avait été mêlé à quelque chose de pas très clair dans une grande ville. Et comme cela arrive souvent, ce sont les petits qui trinquent, n'est-ce pas? Et donc le grand chef, lui, est resté en place. Et par contre, Jacques Baraté a été donc limogé, comme on disait traditionnellement. Il a été viré dans cette petite ville, d'où on espère qu'il ne ressortira jamais. Donc, au fond, quand il est étranger, lui aussi. Il est étranger dans une situation difficile, ou particulière en tout cas, puisqu'il est chargé de contrôler ce qui se passe dans la ville, de percer des secrets, de punir éventuellement des fautes, de conduire à des sanctions. Donc, ils se trouvent tous les deux, n'est-ce pas, un peu dans cette situation marginale par rapport à la bourgeoisie de la ville ou à la bonne société de la ville.
Oui.
Et il a un tempérament aussi, peut-être, qui le rapproche de cette jeune femme.
Oui. En tout cas, c'est ce que vous laissez vraiment bien penser pendant tout le roman. Et Marc Boudet, cet amoureux perdu, éperdu, souffrant, qu'est-ce qu'il est vraiment, lui? Il est vraiment très sombre comme personnage.
Non, je crois qu'il n'est pas sombre, on ne peut pas dire qu'il est sombre, je crois qu'il est, comme vous dites, un peu éperdu et en même temps perdu. C'est quelqu'un qui est resté peut-être trop longtemps sous l'influence de ses parents et de sa mère en particulier, et qui, si vous voulez, n'a peut-être pas, au moment où il aurait dû les engager, eu des rapports qu'on pourrait qualifier de normaux ou de faciles avec les filles, les jeunes filles ou les jeunes femmes de son âge. D'autre part, il est soumis à un mariage arrangé avec une personne, une jeune femme qu'il n'aime pas. Il n'est peut-être pas sombre, mais en tout cas, je crois que ce n'est pas quelqu'un de foncièrement malhonnête au départ, mais c'est quelqu'un qui est un peu dépassé par les événements,
oui,
en dépit de sa très belle place dans la société locale.
Oui. Est-ce qu'il a vraiment peur de sa mère Rachel?
Je ne sais pas s'il en a peur, mais en tout cas, il lui est quand même très soumis. Et
oui,
de ce côté-là, il représente un peu, si vous voulez, l'image psychologique de l'enfant parfait, dominé par sa mère dès l'enfance, qui fait ensuite des études brillantes, qui est un petit peu à côté de la vraie vie,
mm-hmm,
qui se déroule, n'est-ce pas, en dehors de ses cercles et en dehors des diplômes. Voilà, c'est donc un personnage qui n'était pas tellement rare, qui n'est pas d'ailleurs rare aujourd'hui, mais avec des formes différentes.
Oui. Est-ce que les années d'après-guerre, ou même oui, de la guerre, puisqu'il s'agit de cet épisode-là, sont pour les habitants de cette ville des moments à oublier?
Ah oui, sûrement. Sûrement, dans toutes les villes,
oui,
les moments de la guerre sont des moments à oublier, et en particulier la fin de la guerre. Car à la fin de la guerre, eh bien, comme on l'a vu souvent, il y a les résistants de la première heure, il y a les résistants de la 11e heure ou de la dernière heure. Il y a des foules de choses qui se passent et ce sont évidemment des mois à oublier. Et là, je dirais que ce que je dis, ce que j'écris dans mon livre n'est pas totalement sans fondement réel, puisque personnellement, par exemple, j'ai connu une dame fort honorable dans les années où je l'ai connue et qui avait été la maîtresse de soldats allemands, qui avait un peu roulé sa bosse dans cette période-là,
oui,
et qui avait fini la guerre tondue, comme cela est arrivé plusieurs fois dans nos villes.
Oui, oui.
Donc il faut oublier ces choses-là.
Mm-hmm. Tout ce passé qui revient à la surface, comme ça, enfin, que vous faites revenir à la surface, comment le vit-elle Rachel Boudet?
Eh bien, je crois que Rachel Boudet le vit très mal, même si elle pense qu'on ne saura jamais le fin mot de ce qui est arrivé entre elle et Laura.
Mm-hmm.
Mais elle voit bien quand même les risques s'accumuler, et c'est la raison pour laquelle elle essaie de tenir son fils à l'écart de tout ce qui peut être dit. Bien sûr, elle sent quand même une culpabilité remonter.
Oui. Et le dentiste, dans tout ça, vous pensez que c'est lui qui a mis le feu aux poudres?
Ben, il l'a mis indirectement, dans la mesure où il a été, si vous voulez, à travers les photos qui seront le point d'appui de l'enquête personnelle de Laura,
oui,
il a été le révélateur ou l'indicateur qui a montré une direction. car sans ce personnage, Laura n'aurait pas trouvé les responsables de la disparition de sa mère.
Oui. Vous avez mis du mystère autour de votre histoire. Est-ce que c'est la clé de l'intrigue? Parce qu'à un moment, vous parlez de ce fameux bijou qui est tant recherché par Laura. Vous nous mettez sur cette voie et après, vous nous faites rebifurquer vers autre chose. C'est une clé, ça s'est voulu dans votre livre?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, vous dites que Laura est à la recherche de ce bijou. Elle n'est pas véritablement à la recherche de ce bijou. Elle est à la recherche de quelque chose,
oui.
D'un indice. Et il se trouve que par le plus grand des hasards, elle aperçoit ce bijou qui peut lui rappeler sa mère au cou d'une danseuse. Donc, c'est vraiment le plus grand des hasards. Et en général, si vous voulez... dans toute intrigue, il y a des chemins un peu latéraux, un peu fuyants,
oui.
Qui justement font partie de la recherche, qui font partie de l'enquête, car il est bien connu qu'on peut être fourvoyé sur un chemin, sur un de ces chemins, sur une voie, et ensuite revenir à la bonne direction.
Mmh. Je voudrais revenir avec Rachel Boudet. Est-ce que pour elle, c'est de l'aigreur qui l'anime ou c'est de l'amour?
Disons que c'est de l'aigreur, ou je dirais même que c'est de la haine,
oui.
Vis-à-vis de Laura, qui va perturber son jeu puisqu'elle voulait accomplir la carrière de son fils en le mariant à une jeune fille riche, à une jeune fille appartenant au même milieu. Bon, l'amour, c'est l'amour possessif vis-à-vis de son fils, mais chacun sait bien que l'amour possessif est souvent très mauvais conseiller, que bien très souvent aussi ces mères abusives qui veulent absolument faire un grand bonheur pour leurs enfants font leur malheur.
Mm-hmm.
Ce n'est pas d'hier, cela se voit aujourd'hui autour de soi dans de très nombreux cas,
oui.
Situations.
Oui. Ces escapades, vous les avez faites, les escapades que vous nous dites là sur dans cette petite auberge, vous avez fait ce petit chemin?
Oui, bien sûr, de même que je fais. Il y a d'autres escapades, en particulier à Toulouse.
Et, oui.
Je suis tout à fait dans l'orbite de Toulouse. Enfin, je connais bien Toulouse, j'ai été étudiant à Toulouse. Et par conséquent, pour moi,
oui.
Évoquer certains noms, certains lieux, ça a été un peu, là aussi, le plaisir du souvenir.
Mm-hmm. Nous arrivons petit à petit à ce dénouement. Enfin, pour ceux qui vont lire votre ouvrage, c'est... C'est un des plus houleux, finalement, parce qu'il y a toutes ces vérités qui reviennent. Est-ce que Laura a du mal à les reporter à ses grands-parents, ou est-ce que c'est pour elle l'aboutissement et enfin une délivrance?
Je crois que pour elle, elle a du mal à dire la vérité vraie à ses grands-parents.
Oui.
Parce que pour ses grands-parents, dont sa mère était donc la fille,
mm-hmm.
Ils découvrent dans quelles circonstances un peu misérables, en tout cas très dur, leur fille a disparu alors qu'elle était vouée à un avenir, à une vie brillante, et une vie aisée, etc. Donc la guerre, pour eux, prend là sa plus grande cruauté. Mais je pense que pour Laura, c'est une délivrance personnelle, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle ne dit pas tout à ses grands-parents.
Mm-hmm.
Et sa vengeance, d'ailleurs... Elle est un peu biaisée, elle est vraiment particulière. C'est elle qui la joue, cette vengeance. C'est le côté âme qu'on avait tout à l'heure dans la citation de Camus. Hein.
Il, oui.
faut, il faut être une âme forte pour jouer cette vengeance telle qu'elle la joue.
Oui. Et le dentiste, là, vous pensez qu'il a du remords, justement, de ne pas avoir fait assez à l'époque?
Sans doute, oui, sans doute.
Oui.
Mais c'est ce remords qui d'ailleurs est un peu fonction de l'époque. Hein.
Oui.
C'est un remords un peu imparfait, un regret, un grand regret, puisque à cette époque-là, est-ce qu'il fallait le faire? Est-ce qu'il fallait dénoncer Rachel? Voilà, c'est au fond ce qu'on dit souvent à propos de ce qui s'est passé pendant la dernière guerre mondiale,
mm-hmm.
et notamment dans les petites villes, sur le plan personnel. Aujourd'hui, nous jugeons avec le recul d'histoire,
oui.
mais il est facile de juger quand l'histoire est faite. Et donc,
tout à fait.
Voilà, hein, dans l'époque, ce personnage, ce dentiste, est resté un peu à la surface des choses.
Mm-hmm. Est-ce que tout ce cheminement a été important pour Rachel pour pouvoir faire ce deuil, justement?
Oui, je l'espère pour elle. Je l'espère pour elle, parce qu'il n'est pas du tout certain qu'après ce qui lui est arrivé, elle soit quand même complètement persuadée de sa culpabilité et qu'elle en prenne en tout cas la responsabilité.
Oui. Alors, on ne va pas non plus dévoiler l'épilogue de La Vengeance de Laura. Voilà, donc La Vengeance de Laura est parue aux éditions du Rouergue, je le rappelle. Nous allons le laisser bien sûr découvrir à nos auditeurs et je leur recommande de faire cette lecture. C'est donc La Vengeance de Laura par Roger Béteille, c'est un très beau roman. Est-ce que vous avez eu du mal à laisser cet ouvrage quand vous avez fini? Est-ce que vous auriez aimé continuer? Est-ce que vous auriez peut-être aimé continuer cet épilogue ou pas?
Un ouvrage doit être logiquement terminé, si vous voulez. Le personnage se réalise, la fin aboutit comme elle doit aboutir en fonction de ce qu'on a écrit, donc je ne regrette pas d'avoir terminé le livre. Par contre, après, l'autre, si vous voulez, c'est qu'un roman, celui-là ou un autre, puisse avoir une suite. Mais on entre dans un autre personnage et c'est tout à fait différent. Mais il est évident que lorsqu'on a passé plusieurs mois, quelquefois deux ans, à bâtir un personnage en sa compagnie, on le quitte un peu à regret.
Oui.
Je pense qu'il faut peut-être souligner le climat d'authenticité de ce livre, dirant bien la situation des années 70, dans un monde qui est aujourd'hui un peu en train de disparaître, mais qui était à cette époque-là tout à fait caractéristique de ces petites villes.
Mmh. Justement, la ville, vous l'avez voulu assez grande, mais aussi assez petite. Est-ce que c'était important, ça, pour ce roman?
Oui, puisque, si vous voulez, si on est dans une très grande ville, les couches de la société sont quand même beaucoup plus variées, les gens se connaissent moins. Alors que, justement là, comme vous le disiez tout à l'heure, Laura apparaît comme une étrangère dans un milieu qui est quand même un milieu relativement fermé, une poignée de gens de pouvoir et d'argent qui se retrouvent à l'Hôtel de France. Et je crois que le fait que la ville soit une préfecture tout à fait caractéristique de la France traditionnelle permet justement de bien situer les choses et d'avoir toute une atmosphère avec beaucoup d'authenticité.
Mmh. Merci beaucoup Roger Béteille. C'est une page d'histoire vécue finalement par beaucoup de gens à cette époque-là. En tout cas, on pourrait l'imaginer puisque ce sont des choses qui sont arrivées franchement. Est-ce que vous avez besoin de temps pour écrire ces temps forts justement?
Oui, bien sûr, il faut du temps. Moi, comme je vous le disais, je suis quelqu'un qui écrit d'abord et qui propose l'ouvrage ensuite à l'éditeur. Et si vous voulez, sur le temps de l'écriture, je ne fais pas partie de ces écrivains qui sont capables d'écrire à la terrasse d'un bistrot ou sur une table de bistrot. Dans le bruit, j'ai besoin personnellement de temps devant moi, comme on dit aujourd'hui, de séquences,
oui,
de périodes d'écriture qui sont quand même au moins une matinée, une après-midi. Et si possible, j'écris justement dans une période où je n'ai pas trop de déplacements, de manière à pouvoir aller de fil en aiguille vers, sinon la fin, du moins l'avancement du livre, l'avancement des personnages. Donc pour tout cela, il faut du temps.
Et est-ce qu'il vous arrive, par exemple, quand vous êtes, je ne sais pas, moi, chez un commerçant, ou justement, vous parlez avec un ami, est-ce qu'il vous vient, là, des fois, une idée, de par la conversation que vous avez, est-ce que vous la notez?
Oui, tout à fait. Alors là, c'est arrivé, très concrètement, pour, par exemple, mon livre qui s'appelle « Les chiens muets », dont le sujet est assez simple, n'est-ce pas? Un matin, dans une grande ferme, comme il y en avait autrefois, les chiens n'aboient plus. Donc cela crée une atmosphère très particulière dans laquelle vont se révéler des secrets, des passions, etc. Eh bien, ce livre m'a été inspiré par une réflexion d'un paysan que je connaissais, habitant à hameau, et qui me racontait, comme cela, au détour d'une conversation, que chez lui, dans ce hameau, il y avait une personne, un voisin, qui avait des pouvoirs sur les bêtes. Donc aujourd'hui, n'est-ce pas, en 1999, puisque c'est en 1999 que cette conversation avait lieu. Et cela, enfin cette conversation a déclenché en moi l'idée de bâtir un livre autour de ce mystère du pouvoir sur les bêtes, des chiens muets.
Oui. Ben, Roger Béteille, nous allons nous quitter, puisque toutes bonnes choses ont une fin. Vous allez nous dire ce que vous nous proposez comme musique pour finir. Pour ma part, je vous dis au revoir. Je vous laisse le mot de la fin. C'est à vous, donc, la fin de Reliure sur Radio Galaxie. Merci, Roger Béteille. À bientôt.
Bonsoir, à bientôt. Et effectivement, j'aurais souhaité qu'on puisse se mettre dans l'ambiance de ces années difficiles de la guerre à travers une musique très connue que je trouve absolument belle, comme d'ailleurs le film dont elle est le support, à savoir Jeux interdits.